Merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour l'inauguration, enfin déjà dans cet après-midi où il y a eu pas mal de monde, 300, 400 personnes sont passées peut-être ce matin, enfin cet après-midi, pardon. Ah, voilà, on va lancer officiellement le troisième forum Nantais des chemins. Merci encore d'être là. Mais alors, dans toutes ces choses-là, il y a toujours plein de remerciements, c'est normal, hein, parce qu'on ne monte pas, ce qui est devenu le plus grand rassemblement des pèlerins de France sans partenaires, sans amis aussi, et sans associations qui viennent des quatre coins de France pour venir animer tous nos stands, mais aussi des conférenciers et plein de gens différents. Le troisième forum Nantais des chemins, le forum Nantais des chemins a été créé et continue à vivre avec l'action des librairies Siloé, Angers et Nantes. Voilà. Thibaut fait vraiment beaucoup de choses pour le pèlerinage et la marche en général. Et puis notre association, les Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique et Via Ligeria. On ne peut pas monter ça, comme je le disais, sans partenaires et notamment sans partenaires financiers. Donc je vais les nommer ce soir. Et voilà. Et je vais commencer par la Géothèque, la librairie du voyage, qui nous aide beaucoup pour notamment vous proposer un large choix de thématiques pèlerines ou de marches dans sa librairie. Il y a aussi. Oui, on peut les applaudir. Ouais. 360 experts à outdoor qui a monté un magasin éphémère juste en dessous. Voilà, avec plein de matériel, vous pouvez tout acheter, tout trouver presque pour se mettre en route. AGCOM Service à Saint-Nazaire et Pop Art Design, ce sont nos graphistes qui nous font tout, qui nous ont fait cette sublime affiche. Enfin, vraiment, ce sont des gens vraiment qui sont vraiment investis dans ce qu'ils font et leur aide est super importante. Alors, d'autres partenaires, Super U d'Albi, si on mange les casse-dalles ce soir, c'est grâce à Super U d'Albi. RCA, la radio, Radio Fidélité, la Folie Immobilière, le restaurant qui est notre cantine, le Nota Bene qui est à côté d'une pizzeria. Et le Crédit Mutuel, Place Saint-Pierre, bien sûr. Voilà. Alors, je ne vais pas paumer mes notes. Bienvenue à toutes les associations. Et j'oublie les éditions Salvator. Et en même temps, je voudrais faire. Elle n'a pas pu être là ce soir, mais vraiment un grand bravo et un grand merci pour l'aide apportée par Gaëlle Delabrosse, qui vraiment. Voilà. Ouais, oui. Donc, à travers Gaëlle et les éditions Salvator, aussi, bien sûr, l'hebdo Le Pèlerin. Et. Aussi un grand merci au diocèse de Nantes et plus particulièrement au service des pèlerinages du diocèse qui aussi sont présents là et nous aident toute l'année. Voilà. Merci à eux. Merci aussi à tous les conférenciers qui ont commencé cet après-midi, qui vont continuer ce soir et demain aussi. Radio Fidélité qui enregistre les grands formats. Voilà pour ça. Comme je le disais en préambule, le Forum Nantais des Chemins, c'est devenu le plus grand rendez-vous des pèlerins de France. Et on souhaite, dans la thématique pèlerine, il y a bien sûr les chemins de Saint-Jacques qui sont les incontournables. Mais l'idée qu'on a dans le Forum Nantais des Chemins, c'est aussi de donner la visibilité à tous les autres chemins. Parce que les autres chemins sont aussi beaux que ceux de Saint-Jacques et ils méritent vraiment d'être parcourus. Alors on pourrait nommer, ce soir, on accueille le chemin de Sainte-Agathe. Je ne sais pas où ils sont, le chemin de Sainte-Agathe. Un petit chemin dans le Massif central. Voilà. Et ça, c'est chouette de vous avoir. Mais aussi les chemins du Mont-Saint-Michel, la voie de Saint-Martin, plein. Le chemin de Marie-Madeleine en Provence qui viennent de très loin. Voilà. Alors, je ne vais pas tous les nommer, mais bien sûr, le sentier des Trois Abbayes en Brosseliande. Enfin, voilà. Tous. Le chemin d'Assise, bien évidemment. Voilà. Attendez, je tourne mes notes que j'ai minablement perdues. Tac. Qu'est-ce que je disais là? Je ne sais plus, excusez-moi. Ah oui, on a aussi à travers tous ces chemins, cette année, le Forum des chemins nantais prend une version internationale parce qu'on a nos amis suisses qui sont venus. Alors, je vois Olivier là-bas, Sylvie à côté, Annette et Claude qui sont là, qui accueillent nos pèlerins vers Rome aussi. Voilà. Et puis, on a aussi nos amis irlandais, Michael Timms qui est là. Voilà, on a un vrai partenariat avec la Camino Society Ireland, les Haltes Pèlerines. Thank you, Mike, to be here today. Welcome. And it's a great pleasure to, your presence is a great pleasure to us. And thank you very much. And now we have a strong partnership together, Camino Society Ireland and the Haltes Pèlerines. And we are very happy about it. Voilà, moi je vais terminer ces propos là en passant à la parole à voilà. Thibaut.
Donc encore deux merci, le premier aux Haltes Pèlerines et surtout à Anthony et Anne-Laure qui sont moteurs de tout ça. Et sans lesquels tout ça n'existerait pas. Un merci aussi pour tous les anonymes qui prennent les chemins, que ce soit 48 heures vers Saint-Philbert-de-Grandlieu ou 3 mois vers Rome. Merci à tous les pèlerins qui faites vivre les chemins. Voilà. Alors, pardon, on a pris un petit peu de retard. On va avoir deux petites activités. On va remettre un prix que Anthony va vous présenter, un prix pèlerin. Et puis après, on a la chance d'accueillir le frère Jacques Jouet qui vient de sortir un livre qui n'est pas encore paru, mais que nous avons déjà en dédicace et qui, en plus, non seulement marche, mais joue la musique. Donc, il va nous interpréter 1 ou 2 airs de musique avant ensuite de lancer notre conférence avec les Poussins.
Alors, moi, je reprends la parole au titre des pèlerins. Voilà, on souhaitait, l'année dernière, on a remis 2 prix, l'aventure pèlerine et patrimoine en chemin. Cette année, on va faire un prix ce soir, il y en aura un autre demain. Mais on souhaitait vraiment participer à quelque chose qui nous paraît très très important. Comme disait Thibaut, il faut donner la possibilité à tous d'aller en chemin. Et je vais appeler Christophe de Compostelle 2000. Voilà, si tu veux venir, Christophe. Viens. Parce que Compostelle 2000, depuis de très nombreuses années, mais il va nous dire ça, Christophe, mieux que moi. Compostelle 2000 permet à des PMR de se mettre en chemin. Donc, ils ont une énorme logistique. Et vous emmenez combien ? 4 ou 5 ou 10, je ne sais plus.
Cette année, on pense en emmener 10.
Voilà. Donc permettre à ces jeunes ou à moins jeunes de se mettre en chemin, de faire un pèlerinage et de le vivre avec eux. On a trouvé que c'était remarquable et on ne pouvait pas, nous, les Haltes Pèlerines, mais je pense que c'est partagé par tous, ne pas faire quelque chose pour les, entre guillemets, les récompenser. Voilà, donc, et puis en plus, on a notre ami Hervé qui va être l'entremetteur de tout ça et qui va remettre à nos amis de Compostelle 2000. D'accord, c'est vrai. Et voilà, Hervé, pour ses chemins assez incroyables, a reçu le prix de l'aventure pèlerine. Je vais te laisser en parler un peu, mais d'abord, je t'invite à remettre le chèque.
Voilà. C'est avec plaisir que je vous transmets ce chèque et que j'ai reçu exactement le même l'année dernière avant de partir de Rome. Et puis, c'est avec beaucoup de satisfaction, parce que moi-même, ayant vécu 2 pèlerinages, où j'ai mon handicap, donc c'est avec une certaine fierté, même avec beaucoup de fierté, que je vous transmets ce chèque. Et je vous souhaite d'en faire de bonne utilité. Voilà.
Merci beaucoup. Alors oui, cette année, on pense emmener 10 handicapés. Il y a 4 aveugles, 4 enjolettes, une avec un fauteuil expérimental qui est prêté par un hôpital. Donc voilà, donc on essaye aussi d'innover. Et notre objectif, c'est vraiment de faire vivre à des pèlerins handicapés qui ne pourraient jamais aller jusqu'à Saint-Jacques, de leur faire vivre ce que nous vivons quand on marchons sur le chemin, de la même façon. Alors oui, on fait des adaptations, on ne passe pas toujours exactement aux mêmes endroits, on est obligé d'éviter de traverser la petite rivière Aguée, voilà, ok. Mais dans l'ensemble, on essaie de leur faire vivre la même chose. Et pour faire ça, on étale notre pèlerinage sur 4 ans. Donc là, on va démarrer de Paris, jusqu'à Poitiers cette année, en juillet, du 8 au 23 juillet. L'an prochain, on ira jusqu'à la frontière. Et puis, dans 2 ans, on ira jusqu'à Léon, ou environ. Et dans 4 ans, nous aurons la joie d'arriver à Saint-Jacques. Voilà. Mais évidemment, pour faire ça, on a besoin de beaucoup d'accompagnants. On a besoin d'une logistique très lourde. Et donc, s'il y a des, parmi vous, d'ailleurs, des personnes qui ont envie de vivre cette aventure exceptionnelle, de passer 4 fois 2 semaines avec des handicapés de toutes conditions, hein, aveugles comme paraplégiques un peu lourds, et ben ce sont vraiment des expériences fabuleuses à vivre et je vous invite à le faire.
Merci Hervé, merci Christophe, des beaux témoignages. On va maintenant passer la parole, la musique, pardon, à Jacques, qui va nous jouer un petit air pour nous mettre un peu de musique, ou de joie, bien sûr. Alors cette année, c'est quand même 2025, c'est une année particulière, hein, puisque c'est aussi l'année des pèlerins de l'espérance. Et voilà, et on vous invite à vous mettre tous en chemin.
Voilà, donc je suis frère Jacques, franciscain. Ça fait depuis 20 ans que je fais un petit peu des routes, un peu à travers l'Europe, en mendicité, à l'exemple de Saint-François, autant que je peux. Et voilà, donc une belle aventure. Alors, je vais vous chanter une chanson qui m'a beaucoup touché lorsque j'étais au noviciat et que j'ai reçu l'esprit franciscain. C'est que j'ai appris que François, il a compris qu'il cherchait sa route et il a eu de la joie, une immense joie, lorsqu'il a compris, il a écouté un passage d'évangile où il était dit « Allez, je vous envoie deux par deux, partez sans rien, et dans toute maison où vous entrez, dites paix à cette maison. » Voilà. N'ayez pas le souci toujours du matériel, etc. Faites confiance au Seigneur, soyez dans la providence, en fait. Donc, et du coup, cette joie-là, ben, je l'ai reçue aussi, et puis j'en ai fait une chanson de joie, toute simple. Et elle me sert aussi à remercier les personnes, notamment, qui m'accueillent ou nous accueillent lorsqu'on est à plusieurs, pour leur hospitalité. Allez, je vous envoie. Sur les sols, diffusez ma parole.
Et donc le frère vend ses CD à la librairie demain, si vous voulez. Voilà. Et il vient de sortir son livre. Voilà. Merci, frère.
Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes, vous m'entendez bien là derrière ? Oui ? Alors nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour une rencontre qui promet d'être aussi inspirante qu'exceptionnelle. Nous avons le privilège d'écouter le témoignage de deux aventuriers hors normes, un couple qui a fait de la marche une manière de vivre, de découvrir et de transmettre. Bonsoir Alexandre, bonsoir Sonia.
Bonsoir.
Alors avant de partir sur les sentiers du monde et plus proche de nous aussi sur les chemins de Compostelle, puisque vous accompagnez aussi des pèlerins sur la voie du Puy, vous nous en parlerez tout à l'heure, permettez-moi de vous présenter en quelques mots. Alors, des erreurs se sont peut-être glissées sur le texte, dans le texte, n'hésitez pas à me couper si c'est le cas. Alexandre, vous êtes né en 1970 en Belgique, c'est bon ?
Oui.
Tout va bien, super.
La cigogne est passée par là, oui.
Votre parcours marqué par une curiosité insatiable et un goût prononcé pour l'aventure vous a mené du Québec à la France, où vous avez notamment fait un passage chez les scouts de Louvciennes.
Ben, c'est vrai ça, je ne peux pas contredire ça là.
Un passage qui a assurément marqué votre personnalité et peut-être est-ce là d'ailleurs que vous avez forgé votre goût de l'aventure.
Oui.
Vous allez nous en parler sans doute plus tard. Suite à ça, vous avez fait une hippocagne. Vous avez ensuite poursuivi vos études à Sciences Po Grenoble avant de compléter avec un DEA de géopolitique. Notre ami Gaël Delabrosse, qui devait être là ce soir et qui nous a bien aidé à préparer cette conférence, m'a raconté une anecdote plutôt savoureuse à votre sujet. Donc il faut s'imaginer, nous sommes au début des années 90, rue Vaugirard à Paris, et plus précisément à la guilde du Raid. Elle nous racontait que ce jour-là, deux hommes à l'allure décidée ont ouvert la porte de leur bureau. Ces deux hommes, c'était notamment vous, Alexandre, et votre ami de lycée, votre cher ami, Sylvain Tesson. Elle nous raconte alors qu'un véritable tsunami aurait traversé la pièce, tant votre détermination et votre allure décidée auraient marqué les esprits sur place. Toujours pas de fake news ?
Non, ça c'est vrai. Je ne me souviens pas du moment, mais...
En tout cas, toute petite boutique.
Et on a eu la bourse.
Voilà, ouais, cette énergie, c'est cette énergie justement qui vous a permis d'obtenir une bourse et de vous lancer en 1994 dans un tour du monde à vélo avec Sylvain Tesson et suivi en 1997 d'une traversée à pied de l'Himalaya. Sonia, de votre côté, il y a des choses qui circulent sur vous qui ne sont pas toutes vraies. Il y en a une qui ne circule pas et qui est vraie, c'est que vous êtes née déjà en 1971 à Paris. Vous avez été scolarisée aux maisons d'éducation de la Légion d'honneur, ce qui n'est pas dit ailleurs, voilà. Après votre scolarité à la Légion d'honneur, vous avez fait des études d'administration économique et sociale à Assas. Votre engagement humanitaire vous a porté aux quatre coins du monde, au Vietnam, mais aussi en Irak et au Népal. Et attention, vous n'êtes pas allée ni en Ouzbékistan ni au Tadjikistan, contrairement à ce qu'on peut voir dans des médias
moi
qui ne sont pas bien renseignés. Vous avez ensuite mené des missions d'éducation et d'enseignement, convaincu que la découverte du monde passe aussi par l'échange et la transmission. Alors, parmi vos points communs avec Alexandre, vous en avez un qui est évident, c'est votre curiosité et votre goût prononcé pour l'aventure. Vos chemins se sont ensuite croisés, Alexandre et Sonia, vous nous raconterez sans doute tout à l'heure comment, et vous vous êtes mariés, vous nous raconterez aussi les conditions en 1999. Puis ensemble, après votre mariage, vous avez entamé un voyage de noces un peu particulier. 3 ans, 3 mois de marche à travers toute l'Afrique, du Cap de Bonne-Espérance au lac de Tibériade. Une odyssée exceptionnelle qui a donné naissance aux 2 tomes d'Africa Trek qui ont été vendus à plus de 400 000 exemplaires. Mais ça aurait été trop facile pour vous de s'arrêter là, les deux aventuriers que vous êtes. Comme la marche est une philosophie de vie chez vous, vous avez poursuivi avec un périple de 4 ans à travers Madagascar, Madatrek, en famille cette fois-ci, avec vos 2 enfants, Philae qui avait 9 ans et Ulysse 6 ans, transportés tous les deux dans une charrette tirée par des zébus. Aujourd'hui, après ces...
Pendant 4 ans.
Pendant 4 ans. Vous allez nous raconter tout ça. Et aujourd'hui... Après ces incroyables aventures, vous continuez à partager votre passion du voyage à travers des conférences et des interventions sur l'exploration, la transmission culturelle et l'importance de la marche. Votre engagement ne s'arrête toujours pas là, il n'y en a jamais assez pour vous. Vous soutenez également des projets humanitaires et environnementaux qui sont inspirés des rencontres que vous avez faites tout au long de vos voyages. Vous avez raconté toutes ces aventures dans plusieurs livres, écrits seuls ou à quatre mains, dont la plupart seront disponibles à la sortie avec des dédicaces. N'hésitez pas à en profiter. Et vous avez également été l'auteur de plusieurs documentaires captivants. Et ce soir, nous avons la chance de vous écouter. Vous allez nous parler de votre parcours, de vos expériences et de la manière dont la marche a transformé votre regard sur le monde. Une conversation qui, je n'en doute pas, nous donnera à tous ici ce soir l'envie de nous mettre en marche au sens propre comme au sens figuré. Donc merci encore à tous les deux d'être parmi nous. Alors avant de commencer nos échanges, nous vous avons préparé une petite mise en bouche, on va dire un apéritif, je pense qu'il est encore l'heure de prendre l'apéritif. C'est le résumé de votre vie d'aventure en quelques images que vous allez pouvoir nous commenter. Alors.
Eh ben oui.
C'est parti.
Ça commençait mal. Oui, il y a un médecin belge, c'est pas de sa faute, il était belge, qui m'a dit que je marcherais jamais, sans doute, parce qu'il avait vu la radio de mon accident et de mon traumatisme, et apparemment la moelle épinière était amochée, et pourtant les pieds bougeaient. Et il se confiait à ma mère en disant, mais vous comprenez alors, le petit garçon, ses pieds ne devraient pas bouger. Vas-y, bouge les, petits, les pieds. Vous voyez, il bouge les pieds, c'est pas normal. Et donc, il y a eu une sorte de miracle. Je n'ai pas été paralysé, tétraplégique. J'ai failli l'être et j'ai passé un an à Garches. Et j'étais sauvé par un chirurgien. Et il ne fallait pas me dire que je ne marcherais pas, parce que depuis, j'ai effectivement un peu marché. Pour la petite histoire, j'ai revu mon chirurgien au mois de novembre. Il est retraité. Je l'ai vu, j'ai été rencontré à Saint-Vallaoug, parce que je faisais une tournée de conférences pour Connaissance du Monde avec notre film Manatrek. Et il habitait Saint-Vallaoug et on s'est revus avec beaucoup d'émotion de part et d'autre. Parce qu'ensuite, et c'était un jeune interne qui m'a opéré, il était au début de sa carrière, et 35 ans plus tard, entre-temps, il était devenu professeur de locomotion, avec une thèse de professorat sur la locomotion, et avec une opération très compliquée qui consistait à opérer des gens cérébro-lésés à la naissance, qui sont très repliés, et avec une opération systémique de 17 points. Il redressait les gens et il pouvait les remettre en marche. Et ça, ça avait beaucoup de sens pour moi. Et le fait qu'un de ses patients, j'avais 13 ans quand il m'a opéré, j'étais le plus jeune de tout. Mes parents signaient une décharge parce qu'en général, c'est un coup du lapin qu'on attrape à 18 ans, un accident de voiture. Moi, c'était un accident de bille, moi. Le cours d'école et de bille. J'ai roulé sur une bille. Non, c'est pas passé comme ça, mais le ciel m'est tombé sur la tête par tout attis. Un garçon m'est tombé sur la tête et craque. Et du haut de sa hauteur, hein, vraiment l'accident le plus con, le plus idiot possible. Mais voilà, ça a donné une vie de passion et de marche. La marche est tout de suite devenue... pas tout de suite d'ailleurs, parce que quand j'étais scout, c'était ce que j'aimais pas, le raid. J'aimais, moi, les installations, fabriquer des trucs, des tours, des machins.
Je crois que vous vous êtes bien rattrapé, parce que depuis 15 000 km
40 000.
D'accord, j'avais un... Oui, 15 000, ça doit être l'Afrique, c'est ça?
Oui, voilà.
OK, 15 000 en Afrique. Ouais. Et alors, justement, on va pouvoir continuer. Donc ça, c'était votre première...
l'arrivée du Tour du Monde à vélo, ça, avec Sylvain. Et j'ai le genou abîmé parce que j'ai fait une chute en 25 000 km et 35 pays, c'était en regardant Notre-Dame de Ronchamp, dans l'est de la France. Je contemplais Le Corbusier, paf, la roue a répé, badaboum, tombé sur la tête. Ça, c'est le Tibet, ça, c'est le Tibet, ça, c'est le Baloutchistan, ça, c'est la Chine, la fête de l'eau en Chine. On nous a dit qu'il ne fallait pas prendre plus de 7 minutes sur les photos.
Alors, parce qu'on avait on a dit traîné. 7 minutes au total, pas 7 ouais. minutes par photo.
Oui, c'est ça.
Il faut préciser
quand
même.
Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Vas-y, toi aussi, hein.
Donc là, on est parti sur l'Himalaya.
L'Himalaya, la traversée de l'Himalaya avec Sylvain. Là, on est accueilli par une bergère tibétaine. Là, c'est l'Everest qui est derrière nous. On est au sommet du Kalapatar, qui est un petit sommet de 5400 mètres, d'où on jouit d'une belle vue. On n'a pas été plus haut. Ah si, on est allé toucher le pied du glacier là-bas. On n'était pas intéressé par les sommets et les hauteurs. On voulait juste traverser l'Himalaya d'est en ouest en tenue légère, vous voyez. Et on était en short. Ça, c'est un sadhu incroyable qui nous a accueillis de façon totalement providentielle sur les berges du canal Manasarovar, du lac Manasarovar, pardon, à un quart d'heure avant qu'une patrouille chinoise ne passe et qui nous aurait arrêtés, évidemment. Et il était dans une grotte à 15 mètres.
Parce qu'ils étaient illégaux. Ils étaient rentrés.
Ah oui, pardon. On était évidemment clandestins, illégaux. On a traversé tout l'Himalaya sans visa, sans passeport, sans tampon, sans... à ne pas rééditer. Mais on voulait être libre comme un sadhu, comme une bergère tibétaine. Et on l'a été. On ne s'est pas fait attraper. Si, quand même. On s'est fait attraper, mais volontairement, par des Indiens. Mais c'est une histoire compliquée. Ouais.
Et alors, on arrive sur Africa Trek.
Ah, mais là, c'est le premier jour, le départ. On part du Cap de Bonne-Espérance. On est sur l'île de Robben Island, qui est l'île terrible où il y a une prison et où Nelson Mandela avait été emprisonné pendant plus de 18 ans. Et on se disait, on avait l'impression d'être des évadés du goulag. Et donc on partait et devant nous, là, juste devant nous, là, c'est toute l'Afrique qui nous attendait. Mais on ne savait pas qu'on pourrait le faire. Hein. On se dit, c'est un pas devant l'autre, un jour après un autre, et on verra bien. Mais
on a essayé de marcher sur l'eau, là, ça n'a pas marché.
Surtout qu'il y a pas mal de requins blancs, là, de grands requins blancs. Voilà, là, on est dans une petite hutte au Lesotho. Voilà.
Ça, c'est au Zimbabwe, un directeur d'école. Ça, c'est la façon dont on se salue au Malawi. Les enfants bénissent les étrangers, les adultes.
C'est très beau symboliquement parce que les adultes doivent s'abaisser pour se faire bénir par les plus petits et les plus fragiles.
Alors, on ne sait pas si c'est une tradition chrétienne parce que c'est inscrit dans le texte ou c'est pré-chrétien, on ne sait pas ça. Traversée de crocodile, de rivière à crocodile, pardon.
Infesté de crocodile. Oui, là, on a été un peu malade, là. Ouais. On a attrapé le paludisme, la malaria. Ah. Et ça, c'était sérieux.
C'est ouais. Prêt à payer. Chez des franciscains.
Oui. Et bon, on est sorti, mais c'était un peu.
Ça a duré combien de temps? Comment vous avez.
Alors, on a été malade en même temps.
Moi d'abord.
Et Alexandre avait eu.
Le maillon faible, c'est moi.
Alexandre est très curieux de tout. Et on lui avait parlé, il avait parlé avec des Sud-Africains qui lui avaient dit, vous allez traverser l'Afrique, mais est-ce que vous avez pris, qu'est-ce que vous avez comme médicament pour vous prémunir du paludisme? Alors, on avait des trucs français. Donc, on avait du larium, on avait de l'alphan, on avait des choses, en fait, qui sont retirées de la vente aujourd'hui, qui sont ultra dangereux, mais c'était ce qu'on donnait à l'époque. Et il y avait un Sud-Africain qui avait dit, mais prenez, quand vous verrez, quand vous arriverez, si vous voyez des Chinois, essayez de vous procurer cette plante chinoise. Bon, et finalement.
On avait trouvé des médicaments chinois faits à partir de cette plante. Et à l'époque, c'était totalement inconnu en Europe. Et maintenant, on s'est soigné grâce à ça. Oui.
Enfin, lui, il en avait acheté dans mon dos. Parce que j'avais dit, ça va pas, non, tu vas pas acheter ces trucs-là chinois.
Et j'ai testé ce bidule sur moi-même. Et ça a marché en 24 heures. Et elle s'est fait soigner avec toute la batterie. Elle a fini en intraveineuse à la quinine. Hein. Voilà. Et donc, c'était dur.
La méthode normale marchait beaucoup moins bien que la méthode chinoise, finalement.
Et oui. Vous avez malgré tout persévéré, vous avez continué votre chemin.
Oui, quand on était guéri, on a pu repartir avec les sœurs qui nous ont escortés, parce que Sonia était un peu faiblarde à cause de la quinine, pas à cause du palu.
Là, c'est dans un très beau village en Tanzanie. On a vécu avec des barbaïgs, donc ces peuples nilotiques qui ressemblent un peu aux Maasai. C'est pas des Maasai, mais c'est quasiment des Maasai. Et là, on a eu la chance de rester parmi eux et de partager un petit bout de vie. On a pu filmer une cérémonie magnifique de séduction, d'amour entre des garçons et les filles d'un côté, de deux villages différents qui venaient se présenter. Et le but du jeu, c'était de sauter le plus haut possible pour impressionner... et prouver sa valeur à la jeune fille qui était vivement...
Elle s'appelait Madiako. Madiako, cette princesse Barbaig. En fait, elle était née Irak et mariée à un Barbaig, elle est devenue Barbaig.
C'est une autre tribu. Voilà. Vous avez cette photo assez connue de vous deux qui avait été aussi publiée dans le Pèlerin. C'est magnifique. Alors, vous êtes où, là?
On est au sommet. Enfin, on n'est pas tout à fait au sommet, mais on est à 4800 mètres. On est sur le Kilimandjaro. On n'est pas au sommet. Hein. Le sommet, c'est encore plus haut.
Et vous n'avez pas froid, apparemment?
Et ben non, c'est, sous la jupe, il y a quand même des collants. Hein. De laine, bien chaud. Mais Alex, oui, Alex.
Mais c'est du pipeau, cette photo. Il y avait un photographe.
Non, 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 c'est une photo qu'on a prise. Toutes les photos qu'on a prises, en fait, on n'a jamais de photographe. On les prend au retardateur.
Et c'était le self-timer.
Et c'était, il fallait
la caméra était en équilibre sur un trépied, comme ça. Et il a fallu que j'aille actionner l'appareil, parce qu'il n'y avait pas de télécommande à l'époque, et revenir me mettre en position sans culbuter Sonia.
Et puis surtout
dans le vide, parce qu'il y a 100 mètres de vide là derrière.
Lui, il est au bord du vide. Moi, je suis plus.
Donc là, on est en quelle année 2001.
Alors, peut-être si, même 2002.
Là. Si la marche est une question de déséquilibre, parce que l'amour est une question d'équilibre.
Ouais. Apparemment, l'équilibre est trouvé parce que vous avez. Ah non, c'est pas tout à fait terminé là. Vous avez.
C'est des traversées dans des zones tampons, enfin des zones, des no man's land entre des régions. Entre deux pays, entre la Tanzanie et le Kenya. Et donc là, dès qu'il n'y a pas d'hommes, il y a des animaux.
Il y a des lions. Et s'il y a des lions, il y a des bestioles à bouffer, quoi. Voilà.
Non, non, là, c'est un petit orphelin. Il est vivant, hein, il va très bien. Il fait la sieste, en fait. C'est un petit éléphanto. Et là, on a eu la chance de découvrir un orphelinat pour petits éléphants.
Et les éléphantos, s'ils ne sont pas entourés d'amour, ils meurent. Nous n'avons pas le monopole de l'amour comme carburant. Ces petits éléphantos, s'ils ne sont pas aimés, s'il n'y a pas du soin, des soigneurs 24 heures sur 24,
qui leur parlent,
par shift de 8,
qui les caressent,
c'est les 3 fois 8, avec un soigneur, ils se laissent mourir.
Oui. Ouais. Alors là, on est beaucoup plus loin. On a fait un grand saut.
On a traversé un peu quelques photos.
Ça, c'est
sur
le Soudan.
Un raboub, un vent de sable.
Là, c'est l'Éthiopie.
Alors, L'Éthiopie.
À l'Éthiopie, il y a beaucoup de monde en Éthiopie. Là, c'est un des endroits où, même si ça n'a pas l'air sur la photo, où ça ne s'est pas forcément très bien passé.
On a un peu souffert.
C'est un des endroits où on a le plus souffert.
C'est l'endroit où on s'est fait. Le seul endroit en Afrique où on s'est fait lapider, battre à coups de bâton, cracher dessus, insulter vraiment méchamment. Alors, au début, ça fait pas mal parce qu'on ne comprend rien. Et puis, on finit par apprendre la langue. Et après, on comprend les insultes, c'est plus douloureux. Voilà. L'Éthiopie, c'était l'exception qui confirmait la règle. Mais vous voyez là, cette photo-là, on était pas mal accueillis. Enfin, tous les jours, on avait un sauveur du jour qui nous sauvait des autres. C'était ça notre métaphore quotidienne. C'était il fallait partir en quête du sauveur du jour. Parce qu'on ne savait jamais, notamment ce soir-là, entre les mains de quel sauveur on atterrirait. La chanson de l'envoi de cette soirée a été notre premier moteur et notre première étincelle. Quand on faisait notre sac à Paris, qu'est-ce qu'on emporte quand on va traverser un continent qu'on va faire 10 000 kilomètres. En fait, on ne savait pas qu'on ferait 14 000. J'avais comme ça imaginé 9, 10 000 sur une carte, quoi. Et qu'est-ce qu'on emporte? Donc, on savait qu'il fallait être le plus léger possible. Et on s'était dit, il ne faut pas dépasser 7 kilos. Et pour tous ceux d'entre vous qui marchaient et qui savaient ce qu'on met dans un sac, 7 kilos, c'est le poids d'un sac vide, en fait. Il n'y a rien dedans. Et en fait, la solution nous a été dans ce casse-tête où on n'arrivait pas à descendre sous les 7 kilos. La lecture de ce dimanche-là, c'était cette lecture. Vous partirez deux par deux avec un seul bâton de marche, une paire de sandales et une seule tunique. Et alors, tunique, on s'est dit, bon, bah, c'est une chemise. On n'en a pas eu deux. On est parti avec une chemise. Un short, me concernant, une jupe pour Sonia. Et bon, comme les écritures ne mentionnent pas les sous-vêtements...
Le nombre de slips et le nombre de...
On a pris trois slips et trois paires de chaussettes.
On s'est un peu rattrapé sur donc les chaussettes.
Donc, un slip sur soi, l'autre qui attend son tour dans le sac et l'autre qui sèche sur le sac. Donc, on s'est baladé pendant 3 heures avec un slip sur le dos.
Super classe. Alors là, du coup, vous aviez récupéré une tenue.
Alors ça, c'est autre chose parce qu'on a croisé des Français au Soudan. Et en short, c'était un peu quand même un peu chaud les Soudanais.
Ça se fait pas.
Et donc, il m'a passé un Français qui descendait en deux chevaux, lui, m'a passé son pantalon. Il s'appelait Loïc de la Tulée, je me souviens de lui. Et je porte son short, son pantalon, pardon. Et ça, c'est l'arrivée.
Ça y est, c'est l'arrivée en Terre Sainte.
Vous deviez être ému.
Et alors là, c'est la montée vers Jérusalem. On dit toujours, voilà. On comprend, il faut avoir marché là-bas parce que, en fait, c'est vraiment, les pentes sont démentielles.
Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes arrivé sur place?
C'est bon quand ça s'arrête.
D'abord, c'est un endroit, vous voyez, qui est absolument magnifique. Et nous, on avait le bonheur d'attendre un enfant, notre premier enfant, et on l'a découvert pas très loin de là. Donc c'était une autre aventure qui allait commencer, peut-être la plus grande.
Sonia a marché 1800 km enceinte.
Incroyable.
Ouais. Ouais. Ah bah si, ça mérite des applaudissements. C'est l'équivalent de Paris Saint-Jacques, je crois, non? Ouais. Voilà.
Et alors, c'était la traversée de l'Égypte.
Deux mois sans le savoir, donc c'était moins dur psychologiquement, et un mois le sachant, là c'était beaucoup plus dur.
Non, c'était pas dur.
Ah bon?
Non.
Et alors,
j'avais le rythme.
Et donc on est revenu, c'était pas la multiplication des pains là, c'était la multiplication des poussins. C'était à Tabga, le lieu de la multiplication des pains et des poissons, où il y a des franciscains d'ailleurs qui gardent cette magnifique mosaïque avec les poissons et la. Et voilà, ce qui est amusant parce que souvent les Africains qui nous accueillaient le soir, les sauveurs du soir, nous demandaient mais pourquoi vous marchez? Alors, certains nous disaient, mais c'est pour le sport. Je dis, ah non, c'est pas pour le sport. On va vers Jérusalem. Alors, quand c'était des chrétiens, ils disaient, ah, vous allez vers Jérusalem, vous êtes chrétien. C'était la première question qu'ils nous posaient. C'était, what is your denomination? Oh, my name is Alex and she's... So... No, I know what your name is. Your denomination. C'est un truc d'anglais, la dénomination. Comme ils ont plein d'églises, nous, on en a plutôt qu'une ou deux. Là-bas, ils en ont plein. Ils se définissent par leur chapelle, leur église. Alors, on dit, on est Roman Catholic, c'est comme ça qu'on dit en Afrique de l'Est. Et dit, ah, moi aussi, ou alors je l'ai été, je ne le suis plus, j'ai envie de le devenir. Et la discussion commençait pas par les ampoules, les chaussures, etc., mais commençait par à quel corpus spirituel nous appartenions. C'était intéressant. Et quand on se quittait le lendemain matin, il disait, c'est arrivé comme ça, hein, incidemment. Vous porterez mon nom, s'il vous plaît. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Allez prier pour moi à Jérusalem, j'irai jamais. S'il vous plaît, portez mon nom à Jérusalem. Et c'est devenu une sorte de fardeau immatériel qu'on a porté jusqu'au bout. Et quand on est arrivé au Saint-Sépulcre.
Il y avait à la fois des chrétiens, mais il y avait aussi des musulmans qui nous demandaient la même chose. Tout le monde nous demandait ça.
Ah oui, après, quand on est allé.
Porter notre nom à Jérusalem.
Et on a accompli cette mission. Au Saint-Sépulcre pour les chrétiens, on a lu tous les noms, on a prié tous ces maillons qui ont rendu notre marche possible. Tout seul, on n'aurait jamais rien fait. Hein. C'est impossible, on ne traverse pas le continent. On était aidés, sauvés tous les soirs par ce sauveur. C'était réel, hein, ce sauveur du soir. Il n'a, pour ainsi dire, jamais manqué à l'appel en 1300 soirs. Et vous l'avez dit, frère, dans votre chanson, c'est quand on est démuni que la Providence peut pourvoir. Si tout est prévu, eh ben, la Providence peut pas travailler.
Vous êtes totalement abandonné en fait, au chemin et à la générosité, à l'humanité des uns et des autres.
Oui, et les miracles étaient quotidiens. Sur le chemin de Saint-Jacques, c'est plus difficile parce que c'est plus organisé. On sait un peu où on va, on sait par où passer. Il y a la halte qui nous attend. Parfois, il y a la malle postale qui porte nos bagages. C'est plus organisé.
Même si la Providence peut aussi faire de bonnes choses sur le chemin de Compostelle.
Évidemment. Mais quand on est lâché en Afrique hors cadre, là, les miracles sont fascinants.
Et alors, quel
miracle ? Tous les jours.
Tout le temps. Incroyable.
Plusieurs fois par jour.
Quelques poussins plus tard.
Oui.
Quelques poussins plus tard.
Au moins deux de plus, en tout
cas. Deux poussins plus tard. Madatrek. Donc là, nous sommes en quelle année ? Nous sommes du coup 10 ans plus tard.
Oui, on a, entre les deux, on a fait notre petit nid en France. Et voilà, on a acheté une maison, on a dû la retaper. On a eu nos petits bébés et on a un petit peu travaillé. On a un petit peu, et voilà, et on est reparti.
Et pourquoi ? Pourquoi être reparti ?
Pour faire vivre la même chose à nos enfants.
Pour qu'ils puissent avoir la chance de rencontrer l'autre, comme nous, on a eu cette chance. Et on se dit que finalement, plus tôt on le rencontre, le mieux c'est. Donc on est parti en 2014 et on est rentré en 2018, fin 2018. On est parti cette fois-ci 4 ans. On ne savait pas. Hein.
On est allé pour ça, en fait. Pour qu'ils goûtent à la liberté, à la nature, à la simplicité, à l'éducation, à la Mowgli, à la Tom Sawyer, à pas rester 8 heures assis à écouter quelqu'un dans les classes. C'est très bien, c'est très dur. En fait, ça, c'est plus fait pour les enfants, je crois.
Alors, qu'est-ce qu'ils ont
retiré? On ne théorise pas la chose, hein, parce qu'on a dû faire l'école aussi quand même en route. On voulait qu'ils découvrent le monde en marchant. On voulait que ça soit quelque chose sur lequel ils pourraient construire leur vie.
Et qu'est-ce qu'ils en retiennent aujourd'hui quand vous en parlez avec eux? Quels sont les mots, les souvenirs qui reviennent?
Ils ont des âmes de voyageurs. Hein. Notre fille ne tient pas en place. Elle adore, dès qu'elle peut, dès qu'elle a l'occasion, voyager. Et notre fils, en revanche, il est rentré, il aime bien sa chambre.
Il est plus casanier, lui.
Il aime bien son petit univers, parce que justement, tous les soirs, on dormait jamais au même endroit. Hein, donc, c'est pendant 4 ans. Donc,
là, on a une magnifique figure missionnaire qui s'appelle le père Émeric à Meudainville, qui s'occupe d'un foyer d'handicapés. C'est un lazariste. Il a 300-400 handicapés à charge. Il nourrit 10 000 personnes. Il doit trouver 140 tonnes de riz par an. On est resté 2 semaines dans sa mission. On a fait un film de 26 minutes sur cette mission qui s'appelle Tanjomoa et qui est une très, très belle mission, qui était celle-là même qui nous avait mu vers Madagascar parce qu'on avait lu des lettres d'un ami prêtre qui était d'ailleurs le vicaire du Puy, en Velay, qui est devenu évêque depuis, Monseigneur Gobillard, qui est parti faire un an de césure pour retrouver les racines de sa vocation au service des pauvres. Là-bas, au service des plus pauvres et des plus démunis, dans le pays le plus pauvre du monde, un des plus pauvres. Et il écrivait des lettres de Tanjomoa. Et on était en quête d'une destination, d'un futur voyage. Et on a senti à travers ces lettres comme un appel à aller à Madagascar. Et il a fallu que le Seigneur nous envoie 3 signes convergents pour que nous décidions d'aller à Madagascar. Et le père Émeric, il était quand on est parti de Tana ici, il était là. Donc, on y est allé par le chemin le plus long. C'est-à-dire qu'on est parti par là et on a fait le tour du pays. Et au bout de 2300 km, nous arrivions à notre seule et unique adresse, en fait. Quand on est arrivé à...
Mais c'était au bout de 2 ans et demi.
Ouais. C'était plus long que prévu, mais c'est toujours plus long que prévu.
Passer par l'autre côté aurait été trop simple pour vous.
On aurait pu y aller en direct. L'autre côté, je ne sais pas. Ouais.
Voilà, alors, on va continuer sur les photos. N'hésitez pas à m'arrêter si vous...
Alors, il y a du sable, il y a des plages, il y a tous les univers possibles à Madagascar. C'est ça qui est merveilleux. Il y a beaucoup d'incertitudes. Tous les gens nous disaient, tous les jours, les malgaches nous disaient « Atsimeti ». Est-ce qu'il y a un malgache dans la salle? Non. Atsimeti, je peux dire n'importe quoi alors. Atsimeti, c'est-à-dire c'est pas possible. Vous voulez marcher, faire le tour? Vous voulez aller là-bas? Non, Atsimeti, c'est pas possible. Avec Amisarit Nao, avec votre charrette là? Non, Atsimeti. Alors vous allez voir, si vous allez nous aider. Mais pourquoi c'est pas possible? Ah, parce qu'il n'y a pas. Tis Tetezan, il n'y a pas de pont. Tis Lavak, il y a des trous. Tis Lala, il n'y a pas de piste. Miss Ala, il y a une forêt. Il y a des Dahal, Miss Dahal, il y a des bandits, des grands chemins qui volent des zébus. Vous avez des zébus. Et en fait, pendant 4 ans, on a essayé de leur faire prouver que l'impossible n'était pas malgache, français et poussin. Voilà.
Vous n'avez jamais connu des phases de découragement, même avec les enfants, envie de baisser les bras, de rentrer?
Si. Ah ouais. Ben moi, si.
Racontez-nous alors, Alexandre.
Increvable. Elle est increvable, elle. Elle marche, c'est une machine à marcher.
Alors, quels ont été justement les moments difficiles?
Ce voyage-là était beaucoup plus difficile que la traversée de l'Afrique parce qu'on avait 10 ans de plus. Dans la vie, on avait une autre responsabilité. On avait nos enfants avec nous. Et il fallait en prendre soin et qu'ils ne prennent pas trop de risques. Donc, on était plus soucieux. Quand on est parti à 30 ans, on était en pleine forme. On n'avait pas de responsabilité. On n'avait pas de responsabilité familiale. On n'avait pas d'enfants et on n'avait pas de parents qui n'allaient pas bien. On était libre comme l'air. Et ça, c'est une sensation absolument magique de pouvoir aller sans souci. Là, on avait nos parents. Et là, mon papa était très malade, avait un cancer. Et donc, on est parti dans ce voyage, dans ces 4 ans. Et il se trouve que dans notre voyage, j'ai perdu mon père. Et Alexandre a perdu sa maman. Donc, c'était plus difficile. C'est pour ça qu'on... On avait des remises en question quand on marchait parce qu'on se disait est-ce que notre place n'est pas plutôt auprès de nos parents qui vont partir et qu'on verra dans longtemps. Et donc voilà, c'était peut-être ça qui était le plus dur.
Oui, puis il y a eu vraiment des c'était très difficile. Quand tous les Malgaches vous disent que c'est pas possible, c'est quand même il va y avoir un os, quoi. Et on est tombé sur plusieurs os, sur des fleuves à traverser. Comment on fait de traverser une... D'abord, il faut faire nager les zébus, il faut faire flotter la charrette. Il y a des courants dantesques. Pour ceux qui ont vu d'entre vous, qui ont vu les films, c'est épique. Les enfants partent en pirogue avec un gilet de sauvetage, mais est-ce que la pirogue... Enfin, il y avait toute une logistique, c'était compliqué. On a perdu des zébus, il y en a un qui s'est noyé, il y en a qui se sont blessés, il y en a un qui est mort subite. C'est comme si vous perdez, vous avez un moteur 4 cylindres et paf, il y a un piston qui pète, quoi. Donc la voiture s'arrête. Donc on a dû faire beaucoup de. Il y a eu beaucoup d'arrêts. Et puis, ces arrêts remettaient en cause l'intégralité du voyage. Oui, il y avait les bandits. C'était une vraie épée de Damoclès. Donc.
Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y aurait eu qu'un fleuve, mais il y en avait 8 par jour, ouais. Parfois. Donc, je voulais dire, c'était un truc hallucinant, quoi.
On est devenu pontonnier. Il y a un endroit, on a dû refaire 40 ponts pour pouvoir passer. Mais les refaire, les reconstruire.
On se baladait avec des
on faisait 600 mètres par jour.
On mettait devant nos roues, pour passer sur des endroits complètement acrobatiques. Et puis, on récupérait derrière les
planches.
Et hop, on les remettait devant. Enfin, on avançait. Et on faisait ça 6 fois, 7 fois par jour. Et à un moment, on faisait parfois que 6 km dans la journée.
Dans l'Afrique, c'était beaucoup plus facile. 14 000 km, c'est vraiment rien à voir.
Alors, on faisait que 40 km par jour, mais au moins, rien ne nous arrêtait. Alors que là, on était arrêtés non-stop. Donc, c'était
plus fastidieux. C'était aussi plus profond. La charrette était plus lente. Elle était un moyen de communication. Ça parlait aux gens. Et toute cette souffrance était nécessaire, d'ailleurs, pour rencontrer des gens qui souffrent, bien plus que nous. Et donc, endosser la condition des autres, des gens qu'on veut prétendre rencontrer, ce n'est pas un vain mot, en fait. Ça se traduit par des souffrances aussi. Et c'était d'ailleurs le modus operandi recherché. Parce que le touriste, l'occidental, est toujours. C'est très difficile de rencontrer les gens parce qu'on est pressé, parce qu'on va d'un hôtel à un parc et parce qu'on est toujours des porte-monnaie à pattes. Là, non, avec cette charrette, ils voyaient. Il fallait qu'on leur. Enfin, on n'avait pas besoin de leur expliquer. Ils voyaient qu'on s'était inculturé, qu'on s'était malgachisé, que cette charrette, elle n'était pas rapide, elle avait des ébus comme les leurs, et qu'on passait par les mêmes souffrances et les mêmes inquiétudes qu'eux. Et ce qui inversait la relation, ils pouvaient devenir. Le puissant, le fort, le généreux, l'altruiste, l'hospitalier. Alors, on ne rentrait pas chez eux parce qu'ils ont des toutes petites maisons et que nous, on avait notre tente. On allait dormir à côté d'eux. Et l'échange était immatériel. Ce n'est pas le moindre de nos mérites d'avoir, pendant 4 ans, réussi à avoir cette relation confraternelle dans des endroits complètement perdus à Madagascar où personne ne va jamais. Et parfois, ils n'avaient jamais vu de touristes blancs. Ils savent qu'on existe, mais c'était donc ça créait la fête, des commotions avec 3000 personnes dans les villages. Il y avait des photos, c'est
alors,
oui, insensé. La joie, beaucoup de joie.
Vous avez vu une différence justement entre l'Afrique et Madagascar en termes d'hospitalité. Comment vous avez été reçu dans les deux vos deux chemins, vos deux expériences?
Oui, il y avait une différence. C'est pas le même peuple du tout. Hein. D'abord, en Afrique, il y a plein de pays différents avec des cultures différentes, mais ils avaient en point commun justement l'accueil. Ils sont très 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 accueillants en Afrique.
Ça a été facile pour vous
Très très facile. Mais on était moins nombreux. On était deux. Mm. C'est plus facile d'accueillir deux personnes. Nous, on arrivait, c'était un peu l'armada. Hein. On avait notre charrette,
votre troupeau,
nos 4 zébus,
nos deux gars, nos deux coéquipiers malgaches, sans lesquels on n'aurait jamais fait le tour du pays.
On avait un chien, enfin bon, au début on avait deux zébus, puis après 4, puis après.
À Madagascar, on est bien plus en Asie en fait. Les gens sont plus timides, plus circonspects, plus prudents, plus. Il n'y a pas cette espèce d'effusion, profusion de joie que. Enfin si, chez les enfants, c'est plus subtil, c'est plus complexe. Alors apprendre la langue, ça nous a beaucoup aidé. Le malgache nous a été vraiment une clé pour ouvrir le cœur des gens et des villages. Oui.
Alors, on va revenir quelques années
en
arrière. Vous êtes tous les deux des grands aventuriers. D'où vous êtes né chez l'un et chez l'autre ce sens de l'aventure? Quelle a été, on peut peut-être commencer par vous, Sonia, votre première grande aventure? Je crois que ça remonte à quand vous étiez enfant. Vous aviez 8 ans. Mm-hmm. Alors, racontez-nous.
Alors, en fait, ma maman est tchécoslovaque, était tchécoslovaque. Elle n'est plus que slovaque parce qu'il y a eu la partition. Donc maintenant, et maman, ma petite maman, a fait de la résistance pendant sa jeunesse. Et un jour, elle a eu l'occasion de partir en France pour faire une sorte d'échange d'Erasmus. Et pendant qu'elle était en France, elle a pris elle ne le savait pas, mais elle a eu une chance incroyable. Elle a pris le dernier train qui l'emmenait en France. Et tous les trains après le sien ont été renvoyés parce que c'était au moment du printemps de Prague. Donc il y a tous les chars soviétiques qui sont arrivés, qui ont entouré, qui ont refermé le pays pour 30 ans encore de communisme. Et donc elle est partie à ce moment-là. Et quand elle s'est retrouvée en France, elle a appris que tous ses amis qui faisaient de la résistance avec elle ont tous été attrapés et ont fait 2 ans de prison. Donc elle était bloquée. Enfin, elle venait pour ses études, mais finalement... Et elle a eu l'occasion de rencontrer mon papa. Donc, elle
et voilà.
Et finalement, elle est restée. Mais elle n'avait plus le droit, elle, de retourner dans son pays parce que si elle était interdite. Enfin, si elle y allait, si elle rentrait dans son pays, elle avait 2 ans de prison. Donc, comment faire pour... Donc, elle n'a pas pu revoir sa famille. Enfin, c'était terrible. Pendant 15 ans, elle n'a pas pu mettre les pieds en Tchécoslovaquie. Et donc, mon papa, qui était très sympa, qui parlait pas un mot de slovaque, voulait absolument présenter sa petite fille à ma grand-mère. Et donc, il a fait ce voyage avec moi. Et alors, après, donc c'était ma première rencontre avec la Slovaquie. Et en fait, quand j'étais quelques années plus tard, ma maman ne pouvait toujours pas retourner dans son pays. Mais comme j'avais la nationalité française, je pouvais aller, moi, en Tchécoslovaquie, mais toute seule. Donc, je partais, maman me mettait à la gare d'Austerlitz le vendredi soir. Et puis, elle parlait avec les gens dans le wagon, avec les compartiments. Vous savez, on était 6 par wagon, par compartiment. Et en disant, voilà, cette petite fille va voyager jusqu'en Slovaquie.
Vous aviez quel âge, là?
J'avais 8 ans.
8 ans.
Et elle disait, voilà, c'est un voyage qui va durer 2 jours. Donc, je vous demande de prendre grand soin d'elle et d'être gentille avec elle.
À Prague, une dame va venir la chercher.
Voilà. Donc, ce qui est drôle, c'est que toute la nuit, on voyageait. Le lendemain, alors, j'étais devenue la mascotte de tout le wagon, bien sûr, parce que c'était la petite Française qui voyage toute seule en Slovaquie.
Vous réalisez,
et on me donnait des saucissons, des bonbons, des gâteaux. J'étais gâtée comme tout. Et puis, je passais le rideau de fer le lendemain matin, le lendemain après-midi. Donc, avec l'Allemagne de l'Est, là, il y avait des miradors, des chiens policiers. Tout le monde était très tendu. On descendait tous du train, on fouillait tous nos bagages et tout ça. Moi, je m'en moquais parce que j'étais une enfant et les enfants ne se rendent pas compte des choses. Et
plus belle la vie, quoi.
Parce que j'allais dire, à 8 ans, vous réalisiez ce qui...
Je voyais qu'il y avait beaucoup de tension. L'histoire. Je voyais que les gens serraient les fesses et qu'ils étaient très tendus. Mmh. Et puis, hop, on remontait et on continuait. On arrivait le soir à Prague. Et là, à Prague, il y avait une amie de ma maman... L'amie de ma maman qui n'était pas montée dans le train avec elle parce qu'elle avait dit « Ah non, je vais rester, je ne veux pas laisser mes parents. Enfin, » Bref, elle n'est pas partie, elle n'est jamais partie, en fait. Hein, cette amie qui me prenait, qui m'emmenait dîner dans la gare et hop, qui me remettait dans le train et hop, rebelote, j'allais... tout ça sans parler un mot de slovaque, bien sûr. Hein, je tiens à spécifier. Et donc, elle avait prévenu les gens dans le wagon en disant « Voilà, cette petite fille va jusqu'à Banská Bystrica. Ce n'est pas le terminus, donc il faudra que vous l'éjectiez. » Parce qu'elle ne saura pas que c'est là qu'elle doit descendre. Hein. Donc, vous la faites descendre, cette petite fille. Et là, je me retrouvais sur un quai de gare. Et là, il y avait ma grand-mère.
Une babouchka.
Qui m'avait vue quand j'avais 2 ans. Donc, j'avais un petit peu grandi quand même entre les deux. Et qui se disait... c'est ma petite fille. C'est la seule petite fille qui est là.
Et sur le quai.
Et là, je me retrouvais avec elle. Et je ne savais pas parler un mot de slovaque. Et je passais tout l'été, c'est-à-dire les 2 mois et demi de vacances. Et j'ai fait ça tous les étés.
Effectivement,
donc, c'est vrai que ça apprend à avoir confiance en l'autre.
Je crois qu'effectivement, on peut parler d'une grande aventure. Et vous, Alexandre, votre première grande aventure? Un voyage à vélo à travers la France,
par exemple, j'essaie de revenir dans la prime enfance. Oui, moi, c'était le Québec, la pêche, la pêche à la truite. Mes parents me lâchaient à 8 ans sur un canoë, sur une rivière avec des... Dément, quoi.
Et 8 ans aussi.
On ferait
du coup
plus ça aujourd'hui, quoi. J'avais 8 ans, je partais comme ça, et toute la journée, à me faire dévorer par les maringouins et pour aller pêcher des truites. Et les parents nous avaient confiance, quoi. J'aurais pu disparaître. Quoi. Enfin, c'est. A posteriori, c'est. On est beaucoup plus tendu avec nos enfants. Ouais. Voilà, donc le scoutisme a beaucoup compté, moi, dans ma vie. Ouais.
Et vous avez ensuite vous avez traversé la France à vélo aussi?
Ah oui, à 16 ans, j'ai voulu aller sur mon lieu de vacances à bicyclette, j'ai mis 13 jours. Je voulais avoir une expérience physique, qu'est-ce que c'est la France? Je veux l'expérimenter physiquement, voir les paysages comme les pages d'un livre, ce qu'on fait un peu quand on marche sur le chemin de Saint-Jacques, on voit des pages d'un livre ouvert géographique qui s'ouvre, et on voit l'école, et qu'on se retourne, ah oui, voilà, une page, et à vélo ça va plus vite.
Donc, vous êtes parti d'où à où?
De chez moi, de Louvciennes. Et je suis arrivé à Sifour-les-Plages, où on passait nos vacances. Je me suis écourté mes vacances de 13 jours, mais on y passait un mois. Donc,
et ensuite, voilà. Il y a eu ces deux grandes aventures avec Sylvain Tesson. Donc, vous aviez quoi, 24, 25 ans?
Il avait 20 ans, j'en avais 22.
22, ok.
21, 23. et on est parti faire le tour du monde à bicyclette en partant de chez nous.
Et alors,
sans argent.
Qu'est-ce que deux hommes...
Enfin, si, un peu d'argent, mais...
qu'est-ce que deux jeunes hommes de 20 ans, 21, 22 ans, cherchent en allant faire le tour du monde à vélo, puis l'Himalaya? Qu'est-ce que vous cherchiez à ce moment-là?
Le réel, le monde, la liberté. Aller voir le monde encore, voir le monde en avoir une expérience physique et non pas livresque et non pas théorique et non pas télévisuelle et non pas les journalistiques, ce que vous voulez.
Et cette liberté, vous l'avez trouvée à quel moment?
Dès que la porte est claquée. Ciao, Berthe. Déjà, ce qui est, le supplice, c'est ce qui avait précédé, c'est avoir un diplôme. Pourquoi on a un diplôme? C'est pour rassurer les parents. Le job d'un enfant, c'est de rassurer les parents. Les parents, c'est des êtres inquiets. Et je suis maintenant parent, donc je suis inquiet. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'il va faire? Qui trouve sa voie? Est-ce qu'il va être heureux, etc. Et donc, moi, Sciences Po, c'était complètement un accident. Par erreur. Hein. Moi, j'ai eu ma vie, enfin la vie de beaucoup de gens, c'est que des échecs, que des échecs. Sciences Po, c'est un accident. Moi, je voulais être chirurgien. Mais on m'a sauvé la vie, le chirurgien qui m'a réparé. C'était mon Deus ex machina. Moi aussi, je voulais être chirurgien. Je n'ai jamais eu le niveau requis en maths. Et donc, comme j'étais nul en tout, finalement, j'ai atterri en français. En hippocagne, j'étais nul. Je n'ai pas été en cagne. Donc, j'ai présenté le concours de sciences.
Vous avez fini aventurier.
Oui, voilà, c'est ça. Mais ce n'est pas du tout prévu. La vie, c'est ça. C'est ce que, bon, je ne vais pas paraphraser Churchill, mais c'est aller d'échec en échec avec le même enthousiasme. C'est conserver l'enthousiasme, quoi. Parce que c'est pas... non, on se prend que des tôles hein, et des portes, etc. Sauf quand on marche en Afrique en quête du sauveur du jour. Et là, il ne manque jamais à l'appel. Alors ça, il y a une espèce d'addiction après. Il y a une addiction. On veut repartir. On est triste parce qu'évidemment, les gens ils veulent vous garder. Vous allez rester là un jour, deux jours, trois jours pour toujours. Il dit non, je dois repartir parce que Jérusalem, c'est encore loin. Et ils comprennent. Et je dis, si vous n'avez pas quitté notre sauveur du jour hier... on ne vous aurait pas rencontré aujourd'hui, et on doit aller à la rencontre du sauveur du jour de demain. C'est tous ces maillons de cette chaîne, tous ces noms pour lesquels on a prié au Saint-Sépulcre et à la mosquée au Dôme d'Omar, pour les musulmans. C'était quelque chose de beau, et on est porté par ça.
Et alors, Sonia, vous, avant ces aventures itinérantes, vous étiez surtout sur le terrain de l'humanitaire. Quand on vous a interrogé dans Le Pèlerin en 2023, vous avez posé la question « Qu'est-ce qui vous a donné le goût de la marche ?» Alors, vous aviez tout naturellement répondu et simplement « L'amour d'Alexandre ». Certes, alors, mais encore, qu'est-ce que vous avez trouvé dans ces marches, dans ces aventures itinérantes que vous n'aviez pas trouvé dans les missions humanitaires que vous avez réalisées?
Alors oui, il y avait une grande différence parce que moi, je voyageais, mais je restais longtemps sur place et je travaillais sur place avec des enfants. Et c'est très différent. J'apprenais beaucoup de choses aussi parce que ce qui m'intéresse dans la vie, ce qui m'a toujours plu, c'est l'autre. C'est vraiment aller rencontrer l'autre. Et pour moi, je ne m'imaginais pas aventurière du tout. Je m'imaginais travailler quelque part et rencontrer l'autre comme ça, par le travail, par l'aide, par la solidarité.
Donc, par le professorat, tu étais professeur.
Et c'est ça qui me plaisait. Et quand j'ai rencontré Alexandre, en fait, on avait 20 ans. Et quand il est parti faire son tour du monde à bicyclette, en fait, moi, je l'ai rencontré avant qu'il parte faire son tour du monde à bicyclette, pendant qu'il préparait. Et évidemment, quand je comparais son expérience et la mienne, moi, la mienne, sans bouger, mais... tout à fait intéressante et profonde, et la sienne un peu plus rapide, mais où il voyait plus de choses. C'était un autre voyage. Et donc j'étais très contente aussi de découvrir celui de la marche, parce que la marche, c'est la liberté. C'est incroyable. La liberté et puis la reconnexion. C'est-à-dire que la marche, pour moi, je l'ai découvert, hein, parce que je ne marchais pas. Hein, je ne savais pas que je savais marcher, en fait. Hein, c'est grâce à lui hein, que je l'ai découvert. J'avais fait des petites marches avec lui. On s'était retrouvés, on avait traversé le Ladakh ensemble. Après, justement, que je sois allée travailler au Népal avec des enfants des rues. Et on s'est retrouvés marcher dans l'Himalaya ensemble. Donc ça, mais pendant un mois. Mais on était très contents de découvrir déjà que je savais marcher. Parce que ça, je ne savais pas. C'était une bonne nouvelle. Et quand je suis repartie, ce que j'ai découvert en Afrique, ce qui était extraordinaire, j'ai pu me reconnecter avec la nature, j'ai pu me reconnecter aux éléments. J'ai pu me reconnecter à mon mari. Bon, je l'avais sous la main, donc...
Je ne pouvais pas lui échapper.
Je pouvais tout le temps...
J'accélérais de temps en temps.
Je pouvais toujours parler, discuter avec lui et régler des problèmes, des petites choses, un film, communiquer en permanence avec lui. Donc, c'était transparent. Et puis, j'ai pu me reconnecter aussi à ce qui est plus grand que moi. Et ça, je n'étais pas croyante, hein, en fait, quand j'ai traversé l'Afrique.
Alors, justement, vous allez nous raconter. Alors, un petit peu plus tard, on va regarder entre-temps une petite vidéo. J'avais juste une question. Alexandre, vous avez écrit dans Marche avant, « La marche est pour moi un laboratoire d'existence ». Comment, et vous posez la question, comment la marche peut-elle être source de connaissance de soi? Comment la marche peut-elle accoucher de moi-même? Alors, ces questions, Alexandre, aujourd'hui, comment vous y répondez-vous?
En repartant marcher. Oui. Exister, c'est-à-dire sortir de soi. Le problème de notre société, c'est qu'on est trop plein de nous-mêmes, et parce qu'on a des soucis, qu'on doit gagner de l'argent, on doit assurer des positions, une situation. Donc, c'est l'inverse du marcheur vagabond, pèlerin, qui va se dépouiller, le starets, le renonçant, le sadhu, va être dans cette démarche de légèreté, de dépouillement. Donc, comment est-ce qu'on fait dans notre société d'aujourd'hui de concilier les deux? C'est compliqué. Donc, repartir. Et donc, nous, on se voit comme des reporters au long cours. En fait, on a une fonction. On va chercher des choses, on va voyager, rencontrer des gens, et on vient partager ces témoignages au retour. Et après, on repart, peut-être. Il n'y a pas de plan de carrière. Mais la marche est quand même consubstantielle à notre nature et à notre désir d'être heureux. On ne peut pas être heureux si on ne peut pas marcher.
Donc vous êtes en train de nous annoncer ce soir que vous repartez bientôt
sûrement,
pour un nouveau
sûrement.
Périple.
On attend des signes. On ne parle pas comme ça. On attend des signes. On attend que le Seigneur nous dise où aller. Le moment n'est pas venu pour l'instant.
Alors, ce que je vous propose, je vois que l'heure avance, on va passer à la seconde partie de la rencontre. On va juste prendre quelques minutes pour regarder une petite vidéo, un petit teaser de votre petit entracte.
Ah, c'est Madagascar.
Un teaser de Madatrek.
En 2004, Sonia et Alexandre Poussin achevaient leur traversée de l'Afrique à pied. Un voyage extraordinaire, de près de 14 000 km en plus de 3 ans. 10 ans et 2 enfants plus tard, ils repartent à l'aventure. Ce sera Madagascar et en famille. Accompagnés de leurs deux zébus et de leur charrette, Sonia, Alexandre, Philae et Ulysse entreprennent un formidable périple hors des sentiers battus. 4 ans au cœur de l'île Rouge, à la rencontre de ses habitants. Une aventure au plus près de la nature, à la découverte des richesses de Madagascar.
C'est une table, ça, c'est pas une charrette. Bon, je commence par où?
Belgium.
Pays de bonne heure, où est la destinée bienheureux. Il cherchera le couvert malade formidable. Britannia, Britannia, attendez-vous le si tout va bien. Il cherchera.
Cette présence me rassure, vous fait avancer et fait de Madatrek un travail d'équipe.
On est souvent démunis, on reste pas longtemps, c'est très compliqué, mais prise en charge des dénutritions, ça fait partie vraiment des missions de Karmada remplies très bien.
Difficile à supporter de voir ses enfants sans amour, un peu abandonnés comme ça. Et...
tout ému de voir ces images. Alors si ça a dû bien évidemment renforcer, j'imagine, forger votre couple, votre jeune couple. Si on revient justement sur l'histoire de votre couple, vous avez un mode d'aventure plus sédentaire qui vous a rapproché aussi tous les deux. Donc on voit, on devine à l'écran ce que ça peut être. Vous étiez même plutôt trois à l'époque, parce qu'il y avait Sylvain Tesson qui faisait partie de ces expéditions. Il s'agit de l'ascension des monuments de Paris. Donc Sonia, pendant qu'Alexandre faisait le tour du monde à vélo avec Sylvain Tesson, vous escaladiez de nuit avec une amie Saint-Gervais, Saint-Eustache, Notre-Dame de Paris, Saint-Germain-l'Auxerrois, et j'en passe. Et avant la traversée de l'Himalaya d'Alexandre en 1999, Alexandre vous a emmené faire une ascension à Notre-Dame de Paris, jusqu'à la Flèche, tout là-haut. Je crois qu'on les devine. Qu'est-ce qui il s'est passé là, un événement qui allait bouleverser votre vie, Sonia? Racontez-nous. Qu'est-ce qui s'est passé en
haut de la Flèche? Elle a dit oui.
Le chameau, juste avant de m'emmener là-haut, il m'avait fait regarder un film de Hitchcock qui s'appelle Vertigo. Je ne voyais pas trop le rapport, et puis après, j'ai vu le rapport. Donc, il m'a emmené escalader donc, toute la nuit. La Flèche, la belle Flèche qui est partie dans le brasier là, et on a au fur et à mesure, c'est une partie un peu très impressionnante parce que j'avais eu l'occasion de grimper la cathédrale de Notre-Dame, mais jamais la Flèche avec une de mes amies, une de ma meilleure amie, et sans quand Alexandre n'était pas là, mais j'avais jamais osé m'attaquer à la Flèche parce que la Flèche c'était quand même beaucoup plus engagé. Il y a un énorme roncier au pied de la Flèche qui empêche en fait les justement, des petits malins.
Vous n'étiez pas équipé, vous étiez à main nue.
Alors, si, là, on est équipé parce que là, on avait une corde, justement.
C'est qui là-haut, là, c'est...
Alors, là
on devine quelqu'un là-haut.
Alors,
c'est peut-être Sylvain, là.
Là, c'est sans doute Sylvain.
Enfin, si ce n'est lui, j'ai donc son frère.
Mais c'est pas le jour suivante... de la demande. Voilà, ça, c'est pas le jour de la demande.
Alors, ça,
mais...
je sais pas ce que.
Ça, c'est moi, une chauve-souris.
Et on est où, là? On est
là,
où?
C'est sur la Tour Eiffel, ça, c'est au sommet de la Tour Eiffel.
Normal.
Alors là, par contre, il n'est pas du tout encordé. Là. Oh là là. Il est fou. Voilà, là, ça, c'est le jour de la demande. Voilà.
C'est bien plus raisonnable. Elle est encordée. Elle a une sangle. Regardez, il y a des sangles.
Ah oui, on voit les sangles.
Donc, on grimpe au sommet de la Flèche.
Et elle vient de dire oui, là.
Et alors, voilà où ça vous a emmené. Voilà où ça vous a emmené.
Au fur et à mesure qu'il avale la corde et que je monte le long de la Flèche, qui est comme un mât de bateau, hein, qui bouge avec le vent.
Oh,
C'est vachement impressionnant.
Il y avait la croix de Jésus dans le bras gauche, il y avait mon avenir dans le bras droit, et c'était magnifique. Elle a dit oui. Et c'était idiot, je ne savais pas comment faire pour lui demander sa main.
Et alors, comment vous avez fait?
Et ben, moi, je m'appelle Poussin, elle s'appelait Chassin. Et je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit, est-ce que tu ne veux pas changer ton chat pour mon pou? C'est sorti comme ça. Ce n'était pas préparé. Hein. C'est sorti comme ça. Et elle a accepté de rétrograder du chat vers le pou.
Et voilà. Alors, Sonia me racontait tout à l'heure que vous vous étiez rencontrés dans la rue.
Oui, dans la rue. On s'est rencontrés dans la rue.
Bah, racontez-nous.
On s'est rencontrés dans la rue. On avait 20 ans. J'ai un ami africain qui vient me chercher parce qu'on devait aller passer un petit week-end avec des amis, plein d'amis. On se connaissait pas très bien.
Une fête de jeunes, quoi.
Une fête de jeunes, voilà.
Mais le gars, il n'avait pas son permis.
Et je lui dis, mais où est ta voiture, Franck? Où es-tu garé? Et puis, mais je ne suis pas garé parce que je n'ai pas de voiture. Moi, je n'ai même pas mon permis. Alors, je lui dis, mais comment va-t-on Et bien, mais j'ai un chauffeur. Et c'était le chauffeur.
Bibi.
Mais comme mon copain africain était un peu farfelu, il me dit, ah, mais comme ce soir, on va danser, il faut que je sois un peu chic, j'ai pas de chemise, je vais m'acheter une chemise. Donc, il passe, il me dit, écoute, c'est pas loin, c'est sous une montre, un magasin de montres, comme ça, c'est à midi pile, rue du Colisée, vas-y, prends de l'avance, va prévenir, dis que j'arrive. Moi, j'arrive dans la rue et
moi, j'étais à l'heure.
Lui, il était à l'heure l'horloge. Et puis moi, je trace directement vers lui parce que je savais que c'était le chauffeur. Mais lui, il ne le savait pas.
Elle m'a fondu dessus.
Comme un oiseau de
j'étais
bois.
J'étais tout seul dans la rue. Je regarde. J'avais repéré, évidemment, du coin de la rue. Évidemment, je l'ai repéré. Je dis, waouh, elle est trop belle. Waouh, elle était en face, comme ça, elle marchait. Et bon, de loin, j'ai cru que c'était une étrangère, évidemment. Et elle est passée entre deux voitures et elle vient droit sur moi. Alors là, je suis en mode panique. Je regarde derrière sur le trottoir s'il y a quelqu'un d'autre. Non, il n'y a personne. Elle vient vers moi. Je dis, OK, non, c'est bon. Elle vient te demander, where is the next metro station, please? Ou do you have a lighter? Ou quelque chose comme ça. Et je dis, et paf, le temps de le dire, elle est devant moi. Le temps de le penser, elle est devant moi. Et elle me parle en français. Ce n'est pas une étrangère. Et là, j'ai un voile noir. Je manque de tomber presque dans les pommes. Je ne la vois plus.
Ça ne vous est pas arrivé en Notre-Dame?
Non, c'est ça. La panique totale.
Il a piqué un phare de folie.
Et en me voyant rougir, elle a rougi comme une pivoine. Et on était là, pimpon, 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 pimpon.
Et là, sur ces entrefaites, notre ami commun africain est arrivé. Il nous a vu complètement en disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Rouge comme la chèvre.
Messel.
Ouais. Et voilà, donc on a quand même eu
un coup de foudre.
On a eu un vrai coup de foudre. Mais après, ça n'a pas été facile. C'est pas parce qu'on a eu un coup de foudre que.
Ah non, j'ai mis 9 mois à lui décrocher un premier baiser. On n'ira pas plus loin. Mais c'était pas du speed dating, là.
Justement, Sonia, vous vous prépariez aux grandes aventures pendant qu'Alexandre faisait le tour du monde. Vous escaladiez toutes les nuits des monuments parisiens. Une aventure d'ailleurs plutôt risquée qui vous a mené, je crois, même jusqu'au poste de police. Qu'est-ce qui vous attirait dans cette aventure, dans ces ascensions, de monuments? Qu'est-ce que vous cherchiez?
D'abord, je n'avais jamais appris à faire d'escalade et c'est grâce à Alexandre. C'est Alexandre qui m'a initiée quand même, parce que je veux quand même le remettre de moi-même. Je ne serais pas allée grimper, en fait, hein, et surtout pas des monuments, en fait.
Alors, ni marcher, ni grimper.
Mais oui, parce que je n'avais pas grandi comme ça, en fait, hein, et je n'avais pas... Donc Alexandre m'a initiée, elle est d'abord sur le lac Duc de Louvciennes en me faisant grimper. Ça, je le soupçonne que c'était pour profiter de me prendre dans les bras quand j'arrivais.
Eh oui.
Ah, il s'est un peu intéressé quand même. Mais bon, j'ai découvert l'escalade, j'ai trouvé ça extraordinaire et magnifique. Je trouvais que c'était un sport très beau, très noble, où on ne se bat pas contre les autres. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas cet esprit, et où, au contraire, on se retrouve face à soi-même et face aux autres, face à la nature, parce que, en général, c'est sur des belles falaises, et où on n'est pas toujours aussi fort, aussi... On apprend, c'est l'humilité, en fait, qui fait progresser. Et donc, je trouve que c'est vraiment un très, très, très beau sport. Et donc,
Alexandre... Il y a la dimension d'élévation aussi.
Et de...
Il y a la dimension d'engagement. Plus on monte, plus on est engagé, moins on peut redescendre. En fait, la sortie est vers le haut. Donc, il y a plein de métaphores.
Il y a aussi des actes de foi, parce que quand on fait de l'escalade, parfois on reste bloqué sur la paroi à des endroits parce qu'on ne voit plus de prise, on commence à tétaniser, on a les muscles qui commencent à,
et on a peur.
À trembler, et on commence à douter de soi, douter de... Et on est quand même encordé, hein, donc on ne risque pas grand-chose. Mais c'est très difficile, en fait, de faire quelque chose de pas naturel. Et donc, souvent, quand on est bloqué en paroi, il faut faire quelque chose de complètement fou. C'est-à-dire qu'il faut, avoir le courage de se dire « Je n'ai pas de prise pour les mains.
Je ne vois pas,
mais je ne vois pas l'issue.
De solution.
Je ne sais pas où est l'issue. Je ne vois pas où est la prochaine prise parce qu'il y a un surplomb et je ne vois pas ce qu'il y a derrière. Et je vais pousser... Je vais lancer mes dernières forces et je vais pousser sur mes jambes. Et là, je vais gagner 3-4 cm en lâchant les mains. Et je vais.
L'univers va changer.
Ces 3 cm vont me permettre de voir autre chose. Et là, je vais trouver la prise et tac, je vais l'attraper. Mais ça veut dire qu'il faut lâcher pour attraper plus haut. Donc c'est...
Et c'est un peu vrai dans le quotidien de tout le monde. Hein. Si on reste dans sa routine et dans sa zone de confort, la vie devient un peu statique. Et donc, il faut se remettre en danger, il faut remettre les choses en question. Il faut accepter de lâcher certaines choses pour continuer à avancer. Et c'est aussi vrai quand on marche sur ces chemins d'aventure. Parfois, on est bien. Le troisième jour, on est arrivé à Cape Town. Il y avait une piscine, des Dalmatiens. Le gars nous servait des cocktails et tout. On était tombé par hasard chez
un... En frappant à la porte, voilà. on est tombé chez des millionnaires, apparemment.
Bah, le lendemain, on n'avait pas envie de partir.
On était vachement bien. Surtout que la nuit d'avant, on avait dormi chez des gardes forestiers adorables, mais dans un dortoir, et où on avait chopé des puces, on était couverts de puces. Donc le lendemain, à dormir dans une villa hollywoodienne, c'est vrai que c'était sympathique aussi.
Ça a été la seule. Hein.
Il n'y a pas eu beaucoup des villas hollywoodiennes en Afrique quand même, hein, mais bon. On avait au début, en tout cas.
Je vois que l'heure commence à avancer. On arrive sur la fin. J'avais quand même un sujet dont je voulais parler avec vous, Sonia. Toujours sur les ascensions, vous, est-ce que le fait de grimper physiquement vers le ciel, est-ce que pour vous, ça avait préparé le terrain d'une ascension peut-être plus spirituelle ? Vous avez commencé à raconter tout à l'heure que vous êtes converti, vous avez vécu une conversion. Est-ce que pour vous, c'est... Racontez-nous un peu, racontez-nous.
C'est un long processus, hein. c'est une grâce, c'est un cadeau hein, que j'ai reçu. J'avais été baptisée, donc c'était pas loin quand même, mais il faut après que ça se révèle ou pas à moi, et que je le vois, que je le comprenne, que je le ressente. Et dans la traversée de l'Afrique, qui a duré 3 ans, ce qui est incroyable, c'est que cette conversion, elle est arrivée pile... on aurait voulu l'inventer que pile au 7000e kilomètre, c'est-à-dire vraiment à la moitié de notre voyage en Afrique. Et c'était quasiment, pas au sommet du Kilimandjaro quand même, mais tout près.
Avis aux amateurs, hein, ceux qui cherchent la foi, 7000e kilomètre.
Racontez-nous okay. Qu'est-ce qui s'est passé.
Là, il fallait être un peu décapé par la piste. Pour peut-être, Alexandre a une très belle expression, je ne sais pas si elle est de toi ou si elle est de Mère Teresa, il faut être un peu humilifié.
Elle est de moi, elle n'aurait pas fait un barbarisme comme ça.
Ça me fait penser à elle. Donc c'est-à-dire à la fois un peu de, pas d'épreuve, mais un peu de fatigue, un peu de lâcher prise, un peu de...
Enlever les écorces.
Être décapé voilà. Par la piste, enlever être ratatiné écorces. Par la piste.
Être, petit à petit, jour après jour, avec ce petit sac à dos tout petit, avec rien du tout. Et c'est quel bonheur. Ça, je ne le savais pas, hein, parce que moi, j'ai grandi à Paris.
Bah, raconte les circonstances. Où ?
Ah oui, où ? Et alors, donc, mais c'est quand même un processus qui est long, donc je vais vous épargner, mais c'est bien sûr qu'il y a eu plusieurs choses fondatrices dans cette conversion. Et c'est un peu comme c'est comme si je ramassais des petits cailloux blancs semés par le petit poussé, qui est en fait le grand poussé avec une grande barbe blanche. Mais bon, il en avait laissé plusieurs pour que je les vois ou que je les vois pas. Mais bon, il y en a que j'ai vu. Mais quand j'ai fait mon premier voyage, quand je suis allée en Inde, justement, j'ai été voir les sœurs de Mère Teresa. Je croyais pas en Dieu, mais j'étais bouleversée par l'action des sœurs de Mère Teresa, par leur lumière, par leur joie, par leur beauté, par leur générosité, par le don total. Ça, c'est quelque chose de complètement qui m'a bluffée. Et ça a quand même, bien sûr, semé plein de petites graines, parce que j'étais impressionnée par ça. La marche a eu un rôle très important, parce que la marche, c'est fait pour ça. C'est fait, je pense. C'est fait pour ouvrir le cœur. C'est fait pour ouvrir l'âme. C'est fait pour décloisonner plein de choses. Et effectivement, tous les jours, comme on marchait de façon très, très pauvre, puisque bien sûr qu'on était français et que si on avait eu un malheur, on aurait pu prendre un avion, rentrer. Mais enfin, on aurait pu prendre l'avion, mais on l'aurait pris peut-être un mois après. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu faire pouce comme ça. Hein. On était dans des endroits perdus au milieu de nulle part. Et le temps qu'on puisse être rapatrié, ce n'était pas si facile que ça. Mais on était français, donc on avait des moyens plus que nos autres chéris qui nous accueillaient tous les jours, qui eux étaient... Donc, tous les jours, en étant avec eux, on discutait, on partageait énormément de choses. Ils nous offraient. Et j'ai été aussi bouleversée par la générosité des Africains, par leur bonté, par leur accueil, par leur simplicité dans toute chose et par leur espérance. Alors là, je me dis, voilà des gens qui n'ont rien, qui perdent tout le temps, leur récolte, leurs enfants,
leur troupeau,
leur maison. Enfin, ils ont des vies extrêmement dures. Et pourtant... Pourtant, ils n'ont pas perdu la joie de vivre, le sourire, le partage. Mais qui sont ces gens? Qui sont capables? De quoi vivent-ils? D'où ça vient, ça? Donc ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et c'est vrai que le soir, quand on était accueillis par eux, et que le lendemain matin... Alors, on avait quand même un petit rituel. J'avais beau pas croire. J'avais envie de croire, quand même. J'avais envie, mais ça ne se commande pas. Hein. Et donc, tous les matins, avec Alexandre, quand on partait, qu'on quittait nos hôtes, on avait un espèce de petit rituel où on faisait des petites prières et on chantait tous les matins. On avait le temps avec ça à faire.
Hein, dans le soleil levant, avec le chant des oiseaux.
Il faisait frais.
Jusqu'au kilomètre 7000, du coup, qu'est-ce qui s'est passé au kilomètre 7000?
Alors, au kilomètre 7000, alors...
Une crise de palu.
Oui, une grosse crise de palu.
C'est vrai. Ça peut aider.
Enfin... La deuxième, en fait, plutôt la deuxième, je ne sais pas lui. Et donc là, on avait été malades tous les deux, on avait été frappés tous les deux. Les petites sœurs qui nous avaient recueillis nous avaient dit « Attention, Sonia, vous n'êtes pas bien guérie. Donc, on vous prévient, vous avez le Vivax, c'est celui qui revient. Il va revenir, on vous le garantit. Donc, d'ici deux semaines, il faut vraiment que vous ne soyez pas loin d'une mission ou d'un dispensaire parce que ça va revenir et ça va revenir... costaud. Donc, on avait hâté le pas, on avait réussi à trouver, et au moment où c'est revenu, c'est pile poil au moment où on avait rejoint une autre mission, dans un endroit magnifique, au bord d'un lac. Il y avait une petite mission, là, perdue.
Basotou,
c'est splendide.
Les chanoines réguliers de Saint-Auguste. Perdus en pleine Tanzanie.
Avec plein d'oiseaux, c'était extraordinaire. Et donc là, je sens la crise qui arrive. On est roué de coups, on a l'impression d'être roué de coups, donc on a mal à la tête, très 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 mal partout, puis on a mal partout en fait. Comme si on nous avait...
Malaria, ça veut dire ça vient de ça.
Comme si on nous avait boxé, comme si on nous avait passé dans une machine à laver. Et donc on arrive là, ils nous accueillent tout de suite. On leur dit que j'ai une crise de palu, que ça y est, c'est parti. Donc ils me mettent dans la chambre du père Abbé.
Qui n'y était pas.
Qui n'y était pas, évidemment. qui était allé voir son évêque à Arusha. Voilà. Et donc, on me donne la plus belle chambre. Enfin, c'est quand même un honneur incroyable. Et on m'installe là, et puis, toute seule. Et puis, je regarde dans un superbe rondavel, comme ça, très simple, avec que des bouquins, le long du rondavel. Et tous les bouquins, je commence à regarder. Je me dis, bon, ça va durer... Ça va durer 4-5 jours, donc ça va bien me tabasser. Donc je regarde qu'est-ce que je vais pouvoir lire pour passer le temps. Et puis je vois Saint Thomas d'Aquin, Saint Augustin. Là, je me dis waouh. Il n'y aurait pas plutôt un petit Paris Match qui traîne, parce qu'on est un peu diminué hein, quand on a une crise de palu, donc on n'a pas son cerveau complet. Donc c'est un peu ardu, toutes ces lectures.
Alors, vous avez choisi quoi?
J'ai fini par en trouver un qui était un peu à ma portée. J'ai trouvé un livre qui parlait de Mère Teresa, sur la vie de Mère Teresa, écrit par deux journalistes, une Italienne et un Français. Et en le lisant, parce que comme j'avais vu les sœurs de Mère Teresa, j'avais forcément une sensibilité. Et je lis ça, et au fur et à mesure, donc j'ai ma crise, hein, j'ai « waouh ». Et en lisant, à chaque fois que je lisais, j'étais d'accord, j'étais pas d'accord, j'étais révoltée, et je pleurais tout le temps, j'arrêtais pas de pleurer, parce que j'étais quand même complètement retourné par, par l'histoire de sa vie. Et à la fin du bouquin, au moment où je referme la dernière page, quelque chose d'incroyable se passe, d'incompréhensible. Je glisse, mais comme une chiffe molle, parce que bon, j'étais un peu comme une serpillière, je glisse au bas du lit, et là, je me retrouve à genoux. Jamais de ma vie, je m'étais mis à genoux. Et donc, je me retrouve à genoux, et là, je pleurais, mais pas de tristesse. Ça coulait tout seul, et je ne sais pas combien de temps je suis restée dans cette position. Et je suis dans un état de remerciement, de gratitude. Et Alexandre, qui n'était pas avec moi, qui dormait ailleurs, est venu me voir. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Retourne dans ton lit. Enfin, ça y est, la pauvre malheureuse.
Elle est toquée, ça y est.
Ça lui a tapé trop fort sur la tête. Et je lui dis, Alexandre, c'est incroyable. Je crois. Alors, il s'est dit, ouais, ça y est, bon, d'accord.
Crise de délire.
Et c'était
fou. Moi, j'ai dit amen.
Et c'était fou parce que, en fait, je me parlais déjà. C'est vrai que j'étais un peu... Et je me disais, ça y est, ma grande. Je me parlais à moi-même. Ça y est, ma grande. Ça y est. Ça y est, tu crois. Ça y est, c'est ça. C'était incroyable. Et donc, le lendemain, je suis allée à la messe. Et
c'était le début d'une nouvelle grande aventure.
Et c'était aussi beaucoup d'émotions.
Tu n'étais plus seule.
Merci pour ce témoignage, ces mots poignants. Je crois qu'on va pouvoir prendre quelques questions. On a jusqu'à quelle heure pour les questions? Je suis désolée, on a un peu débordé. On m'avait dit 45, il est 48, ça va? Oui. On a enlevé quelques
super
questions
timing.
Aussi. J'ai peut-être...
Bravo, hein.
Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous... Il y a un autre... Peut-être que ça peut être une des questions. Sinon, moi, j'en poserai une. Il y a quand même sur Compostel. Il faudra qu'on revienne aujourd'hui sur ce que vous faites sur Compostel. Mais si jamais quelqu'un veut poser la question, n'hésitez pas. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée?
C'est triste.
Oh. Ouais. En réparant là, quand il a.
Ils ont... Pas de réparation, la création.
Ah. Oh, il y a très très longtemps alors.
C'est risqué.
Au 19e siècle.
Ah oui. C'est vrai que il n'avait
pas
métier,
de corde.
Ouais, c'était risqué. Il y a eu.
Nous, on est-ce montait. Que... Moi, je montais avec une corde. Alors... Je ne voulais pas perdre Sonia avant de l'avoir conquise. Donc, on avait une corde. Oui. Le pauvre jeune homme n'avait pas de corde. Oui.
Vous pouvez peut-être nous revenir, je vais revenir sur tout à l'heure, je vais revenir bien en arrière, sur Compostel, justement, racontez-nous un peu, aujourd'hui, vous continuez du coup, vous accompagnez des groupes sur Compostel, racontez-nous un peu votre expérience, qu'est-ce que vous vivez?
Eh bien, on marche un pas devant l'autre, et en fait, on est un peu inutile, les gens peuvent faire Compostel sans nous, la preuve, tout le monde ici a fait Compostel, mais certaines personnes ont besoin d'être cadrées, parce que sinon, ils n'iraient pas s'il n'y avait pas une sorte d'accompagnateur, de guide. Et donc, voilà, il y en a pour tous les goûts. Et donc, c'est des voyages organisés. Hein. Ce n'est pas moi qui l'organise. Nous, on est juste accompagnateurs. Et donc, on anime des temps de prière. Parfois, il y a des gens qui ne sont pas très ni proches de l'Église, ni proches... ils ne savent pas comment prier. Les gens sont toujours spirituels. Ils ont toujours une quête. Ils ont toujours des questionnements. Donc... le fait de vouloir partir marcher n'est pas anodin. Les gens ne le font pas pour le sport. Et quand bien même ils le disent, ça cache quelque chose aussi, toujours. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas très trendy de marcher, la foi, tout ça. Donc, nous, on est juste comme des accompagnateurs et on écoute. Et quand on nous pose des questions, on essaie de... Puis on raconte nos histoires aussi au coin du feu, le soir ou à la pause, là, en arrivant à Estin. Mais moi, je suis un imposteur complet. Je ne suis toujours pas parti du puits. J'ai marché 17 fois, 17 semaines ou 15 semaines. Je ne suis toujours pas parti du point de départ. Donc, non, c'est vous, les vrais marcheurs, les héros. Ici, il y a sûrement quelqu'un qui a fait 5 fois le chemin de Saint-Jacques. 3 fois.
Ah,
voilà,
ah.
Vous voyez, intégralement. Donc, on est d'humbles marcheurs. On mise sur le temps. On va mettre les semaines au bout des semaines. Qui a fait le voyage d'une seule traite? Waouh, bravo! Ah ben là, ça mérite un applaudissement. Ben oui, c'est quand même autre chose. Et qui a fait le voyage retour? Bravo. Ça, c'est le vrai chemin. Évidemment, le chemin, c'est le retour. C'est y aller et revenir en avion, c'est déjà pas mal. Mais je crois qu'il doit se passer beaucoup de choses au retour. On n'est plus dans la conquête, on n'est plus dans la gagne, on n'est plus dans « j'y suis arrivé parce que j'y suis arrivé ». Ça doit être quelque chose de spirituellement très, très fort, le retour. Je ne sais pas, peut-être que vous pourriez nous en toucher de mots, parce que peut-être que l'hiver arrive aussi, parce qu'on a marché en été pour y aller, puis la mauvaise saison arrive. Voilà, donc je ne désespère pas d'arriver au bout et de commencer par le commencement. C'est prévu pour cette année, pour aller faire voilà, le Puy Nasbinals, c'est quand même, ça manque.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle avant qu'on conclue cette soirée ? Non, bah alors dans ce cas, je vais conclure par le passage d'un de vos livres, Alexandre, Marche avant, un passage qui nous a touchés. Alors j'espère ne pas écorcher vos mots. Quand je voyage, je suis ambassadeur de France. De retour en France, je suis ambassadeur de ces autres que je suis parti approcher, rencontrer, comprendre. Nous sommes tous des ambassadeurs et des représentants de notre monde et de ces autres qui nous entourent et dont nous sommes porteurs. À nous tous d'en être conscients et de nous appliquer à leur donner une voix, et pas nécessairement au bout du monde. L'autre est de l'autre côté du palier, et deux pas sont parfois bien plus durs à franchir que 2 millions. Alors, merci pour ces mots, merci pour votre témoignage. On vous avait promis ce soir une soirée aussi inspirante qu'exceptionnelle. Je crois qu'elle l'a été. Alors on peut remercier nos deux invités.
Merci.
Merci pour votre témoignage, pour votre enseignement de vie, parce qu'on peut vraiment parler d'un enseignement de vie, pour votre énergie aussi contagieuse qui nous donne à tous des fourmis dans les pattes.
J'ai envie de vous finir par une phrase de Saint-Augustin, parce que c'est très abordable, Saint-Augustin. C'est quelqu'un qui écrit en l'an 430 et quelques et qui est vraiment très, très moderne. Ça se lit comme un roman. Et il y a cette phrase, moi je ne connais pas beaucoup de citations de Saint-Augustin, mais celle-là je l'aime beaucoup, vous la connaissez sûrement d'ailleurs, c'est « Marche sur ton chemin, il n'existe que par toi ». Ouais. Et ça, je vous engage à marcher partout, pas que sur le chemin de Saint-Jacques, parce que c'est vous qui faites le chemin en fait. Ouais. Et chaque vie est un chemin, un pèlerinage, on est là sur Terre pour un petit laps de temps. La destination est la même pour tous. On va tous au même endroit. Et on ne sait pas quand. Et donc chaque jour est vraiment précieux. Il faut chérir chaque jour et aller tous les jours en quête de votre sauveur du jour. C'est vital. Voilà. Et il est peut-être de l'autre côté de la rue.
Merci pour ces mots. Merci encore pour tout cela. Je vous rappelle qu'il y a une petite séance de dédicace avec nos deux invités, également avec Frère Jouet et Hervé de l'Antivie, qui sera du coup juste à la sortie. Et le forum fermera ses portes dans 35 minutes.
Une petite chose, les films qu'on a fait à Madagascar sont tous disponibles gratuitement sur YouTube. Vous tapez Madatrek, il y en a 16, il y a 16 heures de films, 16 épisodes.
Et j'ai oublié de vous montrer également effectivement tous vos livres, vos documentaires, voilà.
Alors ceux-là sont payants, mais sur YouTube, vous avez tout gratuitement si vous voulez cheminer avec nous à Madagascar et voir l'extraordinaire générosité de ces gens très pauvres, mais très résilients, très joyeux, très, très, très généreux.
Merci à vous et je pense qu'on peut vous applaudir une dernière fois. Merci encore.
Merci Sonia et Alexandre pour ce témoignage captivant. Et merci aussi, un grand merci à Cécile Picot de l'Ébéole Pèlerin qui a animé cette belle soirée. Les dédicaces vont se réaliser maintenant. Ouverture demain pour les associations à compter de 9h.